Bonjour à tout le monde. Donc je vais me présenter très rapidement. Donc je suis maître de conférence à l'Université de Savoie. J'ai fait une thèse de paléosonographie il y a une dizaine d'années. J'ai travaillé sur les sédiments du Pacifique, sur les rapports isotopiques de l'oxygène dans des foraminifères. Et puis là, je vais me présenter mon habilitation à diriger des recherches. Et donc là, j'ai travaillé pendant 10 ans sur des grands carottages de la Calpin et sur la reconstitution du climat sur les 15 000 dernières années. Et là, maintenant, je me spécialise sur la période la plus récente. Bref, petit à petit, j'ai glissé de la variabilité climatique naturelle vers la surimposition homme-climat. Donc voilà pour la présentation très rapide. Par rapport à ce qu'on avait fixé comme objectif, c'est-à-dire sur le thème des surprises climatiques, je vais faire une présentation un tout petit peu plus générale parce que c'est vraiment restreindre le débat. Donc je vais faire un point sur l'ensemble de l'évolution du climat sur la Terre. On parlera un tout petit peu de la théorie astronomique des climats, sauf si vous la connaissez, si vous la maîtrisez bien, on pourra la passer. Et puis ensuite, j'aborderai le climat plus récent, celui des 30 000 dernières années. Alors, comme en fait, le fil rouge, d'après ce que j'ai compris, c'est surtout l'énergie, c'est ça, hein ? Je vais essayer de replacer ça dans un contexte on va dire énergétique, hein, même si ça va être un petit peu difficile à certains moments. Bref, le système climatique, c'est quelque chose de relativement complexe. Il y a un certain nombre d'éléments, un certain nombre de moteurs qu'on appelle, nous, les forçages. C'est l'océan, c'est l'atmosphère, c'est la cryosphère aussi, la glace. Et puis, bien sûr, il y a une source de chaleur, c'est le soleil. Et en fait, le système climatique, c'est principalement les changements d'état de l'eau. À travers ce tout petit exemple, je vais vous montrer à quel point ces changements d'état sont extrêmement importants. Donc j'ai pris l'exemple d'un gros orage, assez gros quand même, hein, 5 cm de pluie sur 10 km², ça fait 500 000 tonnes d'eau. Et donc vous le savez comme moi, hein, la condensation à partir de la vapeur d'eau atmosphérique, eh bien ce changement d'état va libérer de l'énergie. Si on remet ça dans le calcul avec les 500 000 tonnes d'eau, on arrive à peu près à 1220 milliards de kilojoules. Alors pour moi, ces énergies kilojoules ou kilocalories, ça me parle pas trop. J'ai mis ça en kilotonnes d'équivalent TNT, ça fait à peu près 100 kilotonnes. Et vous avez ici Hiroshima, Nagasaki, 15 et 20 kilotonnes. Donc vous voyez à quel point ces changements d'état sont essentiels dans les bilans énergétiques. Alors, ça c'était vraiment un point très particulier. Maintenant, si on regarde ces changements d'état entre les différents réservoirs, est-ce qu'on peut faire baisser la lumière, s'il te plaît, Olivier ? Non, ça te... Ok, merci. Donc, ces changements d'état impliquent des changements de réservoirs. Donc, principalement, ces deux réservoirs. On parlera un peu plus tard de la cryosphère, mais ces deux réservoirs, c'est l'atmosphère, principalement, et puis l'océan. Bien sûr, la Terre est importante, mais c'est pas l'essentiel. Et donc, généralement, quand on vous présente des schémas, notamment dans Comprendre et enseigner la planète Terre, ou dans Sciences de la Terre et de l'Univers, on vous montre les enveloppes externes et le cycle de l'eau, très schématique, il y a des flèches qui partent un peu partout dans tous les sens, mais finalement on ne connaît pas la dimension de ces flux. Ici vous avez ces flux représentés en Sverdrup. Le Sverdrup c'est 1 million de mètres cubes par seconde, et vous voyez que 4/5 des échanges, du changement d'état de l'eau, hein, se fait entre l'océan et l'atmosphère, avec chaque seconde 13 millions de mètres cubes qui s'échangent en évaporation, ici 12 millions de mètres cubes qui s'échangent en précipitation. Globalement, pour vous donner un ordre de grandeur de ce Sverdrup, c'est globalement le débit de tous les fleuves. Hein, un peu plus, 1,3 millions de mètres cubes seconde. Donc voilà pour présenter d'une manière générale ce cycle de l'eau. Alors, bien sûr, ces changements d'état, ils sont liés à quoi ? Ils sont liés à la chaleur qui nous est apportée par le soleil. Et j'en finirai très brièvement là-dessus, sur ce rappel, sur le rôle de ces différentes enveloppes. Hein. Ces enveloppes, elles ont comme rôle de provoquer des échanges méridiens, c'est-à-dire de répartir la chaleur. S'il n'y avait pas ces enveloppes, s'il n'y avait pas de rotation avec cette force de Coriolis, eh bien on aurait une Terre qui se réchaufferait indéfiniment dans la zone intertropicale et qui se refroidirait indéfiniment dans les zones de haute latitude. Là, grâce à ces enveloppes, on a des échanges méridiens. Et ces échanges méridiens, alors je vais reprendre cette figure très brièvement, vous avez ici le solaire absorbé et vous avez ici le spectre de réémission de la Terre qui vous montre que si on prend le bilan radiatif de la Terre dans la zone intertropicale entre 30 degrés nord et 30 degrés sud, on est dans un bilan positif. Et ici, au-delà de 30 degrés sud et au-delà de 30 degrés nord, on a un bilan négatif. Donc, on a ici l'atmosphère, je ne vais pas détailler, l'atmosphère et l'océan, que ce soit dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, qui redistribue la chaleur, soit à travers les courants atmosphériques, soit à travers les courants océaniques de surface et les courants océaniques profonds. Donc voilà, très brièvement, ce système climatique, un moteur des échanges méridiens de chaleur. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc petit à petit, je vais focaliser sur la période la plus récente, mais en repartant ici sur l'histoire climatique de la Terre, et principalement en ciblant les grands coups de froid de la planète, puisque l'objectif c'est de parler des surprises climatiques, et les surprises climatiques, elles ont souvent été documentées à travers les événements froids. Donc voilà l'histoire de la Terre, hein. On a 4,6 milliards d'années ici, et puis vous avez une courbe extrêmement simplifiée, qui vous représente la température, le froid ici et le chaud ici, avec un certain nombre d'épisodes glaciaires. Il y en a un premier ici qui est intervenu il y a 2,7 milliards d'années, un ici qui est intervenu il y a 800 millions d'années, deux, au niveau de l'ère primaire, ensuite une période relativement chaude marquée par un très très gros effet de serre au cours du Crétacé, et puis la période, ici la période on va dire plio-quaternaire. Tout ça vous montre finalement que nous sommes actuellement à l'intérieur d'une période glaciaire. Ça, c'est vraiment extrêmement important. On n'est pas dans une période de glaciation généralisée telle qu'on en a connu dans le passé, mais en tout cas, on est dans une période particulièrement froide. Pour en venir très très rapidement sur les périodes anciennes, et puis ensuite je focaliserai sur le récent, hein. Les glaciations les plus anciennes ici, on a du mal à les expliquer à travers des mécanismes liant le Soleil et la Terre. Tout simplement parce que la luminosité terrestre, il y a près de 3 milliards d'années ici, elle était 10 à 20% inférieure à celle que l'on a actuellement. Et donc, on n'a pas de glaciation généralisée. Il se trouve que depuis très très peu de temps, depuis à peu près un an, l'équipe du LSC, un laboratoire qui se trouve à Saclay, mis en évidence le mécanisme de cette glaciation ici, hein, la glaciation huronienne, qui est en fait un effondrement du méthane. Il y a un lien très très précis ici entre l'histoire de la vie et l'histoire du climat, simplement le développement des premières bactéries, des archées, et l'apparition de l'oxygène. Cet oxygène a oxydé très très fortement le méthane, a fait chuter le méthane, alors que l'effet de serre était principalement lié à ce méthane, eh bien on rentre en glaciation. Deuxième événement, c'est à nouveau un effondrement, mais pas cette fois-ci du méthane, un effondrement du gaz carbonique. Ce que je veux vous montrer à travers ces deux exemples, c'est que la chimie de l'atmosphère, elle est vraiment un élément extrêmement important, on en reparlera pour le climat récent, c'est un élément extrêmement important pour la régulation du climat. Donc comme je vous le disais, cette glaciation, hein, la Snowball Earth, qui date de 800 millions d'années, là c'est un effondrement du carbone, du gaz carbonique dans l'atmosphère, qu'on explique très très bien. C'est une étude qui a été faite par des collègues de l'ONS ici, et de Toulouse, et de Paris également. Ils ont montré que à cette époque, alors qu'on avait un continent qu'on appelle la Rodinia, ce continent s'est fragmenté. Tout ceci a donné des surfaces beaucoup plus importantes permettant l'érosion. L'érosion, c'est consommateur de gaz carbonique, et on a cet effondrement du gaz carbonique qui fait qu'on entre en glaciation. Donc voilà très très rapidement pour ces deux glaciations liées à une chimie de l'atmosphère. Les glaciations du primaire sont plutôt liées à une histoire paléogéographique, et maintenant on va parler de l'évolution récente de notre planète, enfin récente à l'échelle des temps géologiques. Ah oui, très rapidement quand même, je voulais vous dire que le lien que j'avais évoqué ici entre cette glaciation huronienne et la vie, eh bien, il y a un lien également entre cette glaciation à 800 millions d'années et la vie, puisque quand on regarde Sur ce graphique, on voit que ça correspond à une explosion massive des métazoaires qui est contemporaine de cette déglaciation néoprotérozoïque. Alors voilà pour le climat plus récent. Donc là, on a vraiment fait un saut dans le temps. Hein. Là, on évoque les 65 derniers millions d'années. Ça va changer un petit peu d'échelle, hein, verticalement, horizontalement. L'actuel est ici. 65 millions d'années, c'est quelque part par ici. Et vous avez ici l'évolution du rapport isotopique de foraminifères benthiques qui vous montre ce qu'on pourrait appeler une dégradation climatique. C'est pas une dégradation climatique, c'est un changement climatique. Ça signe d'abord un changement de composition isotopique de l'eau de mer. Et un changement de composition isotopique de l'eau de mer, il y a deux moyens de le faire changer, enfin composition isotopique de l'oxygène, il y a deux moyens de le faire changer, soit on change la température de l'eau, mais là finalement, température de l'eau de fond, ça change pas beaucoup, hein, c'est toujours la même densité et c'est à 1 degré à peu près. La deuxième manière, c'est de stocker de la glace au niveau des pôles. Donc là, on fait monter le rapport isotopique de l'eau de mer pendant les périodes glaciaires. Donc vous voyez ce rapport isotopique qui est très élevé actuellement, qui vous montre encore une fois qu'on est bien actuellement au cœur d'une période glaciaire, l'ère glaciaire quaternaire. La glaciation, finalement, quand est-ce qu'elle commence? Elle commence probablement ici, il y a une trentaine de millions d'années, par l'englacement de l'hémisphère sud, et principalement du continent antarctique. La raison, elle en est paléogéographique, c'est à peu près à cette époque que l'Amérique du Sud et l'Antarctique se séparent, ménageant ainsi un passage, qu'on appelle le passage de Drake, que l'on retrouve ici, hein, et qui a permis un isolement du continent antarctique avec un courant circum-antarctique, donc un isolement atmosphérique, et donc un échange méridien entre l'équateur et les pôles qui est bien plus faible qu'avant. Alors, on cible maintenant sur les 5 derniers millions d'années, pour vous montrer cette composition isotopique. Et donc, on considère que la glaciation de l'hémisphère nord, elle date d'à peu près un peu plus de 3 millions d'années. On a des archives, notamment des moraines en Alaska, des moraines en Sibérie. On n'a rien de tout ça ici, hein, mais on sait à peu près que ça date de cette période-là. Et vous voyez apparaître à l'intérieur de ce signal isotopique un certain nombre d'oscillations, très resserré dans cette partie de l'archive, et au contraire, plus dilaté sur les 700-800 000 dernières années. Tout ceci fait à partir d'archives océaniques. Si on regarde cette partie plus récente, les 700 à 800 000 dernières années, on a la chance de pouvoir utiliser d'autres archives avec une meilleure résolution, une résolution quasi annuelle, les archives de glace. Ici, un carottage qui a été fait, enfin un forage plutôt, qui a été fait en Antarctique. Vous connaissez probablement celui de Vostok. Là, on est sur un autre dôme, à côté du dôme C, c'est le forage EPICA, un programme franco-italien, qui vous montre, ça vient d'être publié il y a à peu près un an, qui vous montre l'évolution de la chimie de l'atmosphère au cours des 700 000 dernières années, avec le gaz carbonique qui est ici en bleu, ici un rapport isotopique qui vous donne peu ou prou la température, et puis ici le méthane. J'ai écrit ici que ça correspond à une époque où le forçage ou le contrôle orbital forçait le CO2 atmosphérique, alors qu'actuellement c'est complètement l'inverse. Actuellement, ce qui se passe, c'est que c'est le gaz carbonique qui est le mécanisme forçant le plus important sur le système climatique. À cette époque, c'était des baisses de la température de l'océan qui entraînait un stockage massif de ce gaz carbonique dans l'océan, et au contraire des hausses de température de l'océan qui libéraient du gaz carbonique dans l'atmosphère. Alors, ce qui est intéressant quand même sur cet enregistrement, et ce qui excite beaucoup la communauté actuellement, c'est cette période ici. Cette période qui correspond à un interglaciaire. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que actuellement on est au cœur d'une période glaciaire, mais cette période glaciaire, elle est ponctuée par des interglaciaires qui sont relativement courts. On est actuellement dans un interglaciaire qu'on appelle l'Holocène, et des périodes glaciaires qui sont longues. Donc je vais reprendre ça très rapidement. L'interglaciaire actuel est ici. La dernière période glaciaire, elle s'échelonne entre 20 000 et puis à peu près 100 000. l'interglaciaire précédent que vous connaissez peut-être, qu'on appelle l'Éonien, etc., etc. Pourquoi celui-ci monopolise autant d'équipes de recherche, en termes de modélisation principalement? C'est sa durée. Parce que autant les trois interglaciaires précédents étaient relativement courts, 10 à 12 000 ans, autant celui-ci semble être un analogue de l'interglaciaire que l'on vit actuellement. Il a duré 28 000 ans, et il semblerait que celui que l'on vit actuellement puisse durer à peu près une trentaine de milliers d'années. Alors ces cycles, pardon, je reviens sur cette figure, ces cycles, hein, j'ai dit qu'on avait sur les 5 derniers millions d'années des cycles relativement resserrés, et puis à partir de 800 000 ans, 700 000 ans, on avait des cycles plus dilatés, vous les voyez, ces cycles dilatés, qui fait que une période interglaciaire se reproduit tous les 100 000 ans. L'interglaciaire précédent, encore précédent, etc., etc. Cette périodicité de 100 000 ans, elle est liée à un paramètre orbital qu'on appelle l'excentricité et sur lequel je vais revenir maintenant à propos de la théorie astronomique des climats. Alors, avant de vous exposer cette théorie astronomique des climats, on va évoquer très rapidement le bilan radiatif de la Terre tel qu'il est actuellement. Avec ici une figure qui se trouve dans Comprendre et enseigner la planète Terre, qui vous montre la planète entre... Décidément, ça marche plus, oui. Entre 90 degrés nord et ici 90 degrés sud. Et puis c'est une année de bilan radiatif, du 21 mars au 21 mars de l'année suivante. Avec tout ceci exprimé en joules par mètre carré, vous voyez une configuration ou un motif qui a l'air assez symétrique, hein, qui est relativement cohérent, heureusement, hein, qui vous montre que le solstice d'été dans l'hémisphère nord, ici au 21 juin, on a un maximum de chaleur qui arrive à 30 degrés nord. Et puis ici, le solstice d'hiver, le 21 décembre, avec un maximum de chaleur qui arrive dans l'hémisphère sud. Motif effectivement relativement symétrique, sauf que vous voyez qu'il y a un excès de chaleur qui arrive dans l'hémisphère sud. Alors cet excès de chaleur qui arrive dans l'hémisphère sud, hein, il s'explique grâce à ce petit schéma qui vous montre la trajectoire de la Terre autour du Soleil, avec le grand axe qui matérialise deux points bien particuliers, le périhélie, où la distance Terre-Soleil doit être égale à un peu moins de 140 millions de kilomètres, je crois, alors qu'à l'aphélie, on doit être à près de 160 millions de kilomètres, je crois, si mes souvenirs sont bons. En moyenne, on est à 150 millions de kilomètres. Donc finalement, là où la Terre passe au plus près du Soleil, c'est au moment de son solstice d'hiver, le seul moment dans l'année où le pôle sud pointe en direction du Soleil. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle le solstice... Bon, ça je vais abandonner. C'est ce qu'on appelle le solstice d'hiver, alors que au 21 juin, la configuration est inverse. Au 21 juin, c'est le seul moment de l'année où le pôle nord pointe en direction du Soleil. Et là, on arrive à la définition de ce qu'on appelle les solstices, solstice d'hiver et solstice d'été. C'est le seul moment de l'année où, en fait, l'axe de rotation de la Terre est contenu dans un plan, ce plan, vous le voyez ici, hein, qui passe par le Soleil et qui contient la normale au plan de l'écliptique. Voilà comment on définit la ligne des solstices. Et ça, c'est important pour la suite. Donc, vous voyez qu'on passe au périhélie avec un solstice en position boréale. Cette ligne des solstices, elle a évolué au cours du temps. Alors, ça, on reviendra là-dessus plus tard. Maintenant, un certain nombre de paramètres sur le bilan énergétique. La constante solaire, elle est égale en moyenne à 1400 watts par mètre carré. Ça, c'est le disque solaire, hein, enfin les rayons du soleil projetés sur un disque. Comme la surface de la Terre, bah, c'est une sphère, c'est 4 pierres carrées, on divise par 4. Voilà à peu près les valeurs des bilans radiatifs. Donc ce n'est plus la constante solaire, celle-ci, c'est la valeur moyenne. En aphélie, point le plus éloigné, on est à 330 watts par mètre carré. En périhélie, on est à 351 watts par mètre carré. Voilà comment on explique qu'il y a plus de chaleur qui arrive dans l'hémisphère sud. Et encore une fois, l'atmosphère et l'océan, à travers des courants océaniques et des courants atmosphériques, redirigent pareil, change méridien, toute cette chaleur accumulée. Quelques définitions, quatre saisons calées, ouais, je vais passer très rapidement là-dessus, on a encore pas mal de choses à dire. Pour vraiment vous convaincre que ce bilan radiatif, il est fonction de la latitude, ça c'est extrêmement important, hein. C'est ce qui fait qu'on a une saisonnalité finalement, c'est l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. L'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, il est aux alentours de 23 degrés, ce qu'on appelle l'obliquité. Et vous avez ici une représentation de la Terre à un moment particulier de l'année. On est au solstice d'hiver, vous voyez que le pôle sud, qui est représenté ici, ce pôle sud, pointe en direction du Soleil. Alors j'ai récupéré, et je vous montrerai après si on a le temps, à partir d'un logiciel, les valeurs en watts par mètre carré, qui vous montre que le 22 décembre, Lyon reçoit autant de chaleur que le pôle sud. Voilà les valeurs. Le 22 décembre, au solstice d'hiver, on est à 210 watts par mètre carré, à 45 degrés nord. Et au même moment de l'année, parce qu'on est en solstice boréal, on est au pôle sud à 280 watts par mètre carré. Donc, la configuration antarctique est très particulière. Déjà, c'est un continent qui est relativement élevé. Il présente un isolement géographique extrêmement important, comme je vous l'ai montré. Et puis en plus, cette valeur d'énergie, elle est très très courte dans le temps. Donc ce qui fait que c'est pas du tout une configuration propice au désenglacement de l'Antarctique. Alors cette obliquité, ce paramètre, a évolué au cours du temps. Obliquité ou inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, entre deux valeurs extrêmes, 22 degrés et 24 degrés 5, avec une périodicité, je pense que vous la connaissez, hein, j'imagine, qui est égale à 41 000 ans. Il y en a une autre qui est extrêmement importante, qui ressort beaucoup des études qui ont été faites par Milutin Milankovitch dans les années 40, qui ont été reprises par l'équipe de Louvain-la-Neuve, André Berger, et également par Lascar, un collègue qui travaille à l'Observatoire de Meudon. Il y a une deuxième période extrêmement importante, c'est celle à 54 000 ans. Il se trouve que, et ça, on n'a toujours pas la solution, dans toutes les archives, que ce soit des archives glaciaires, des archives océaniques, bref, toutes les reconstitutions climatiques faites à partir de systèmes naturels, on retrouve principalement une périodicité, celle à 40 000 ans, et moins celle à 54 000 ans. Alors, cette variation d'angle au voisinage des pôles, ça se traduit par une variation d'énergie qui n'est pas négligeable, qui est de l'ordre de 15% à une période de l'année bien précise, au solstice d'été, au moment où le pôle Nord pointe en direction du Soleil. Donc, on se retrouve dans deux configurations extrêmes. Une forte inclinaison alors, j'ai marqué forte saison, c'est plutôt une amplitude saisonnière extrêmement importante et une faible inclinaison qui conduit plutôt à une très faible amplitude saisonnière. Quelle est, si on regarde maintenant l'évolution de l'obliquité au cours du temps, quelle est la configuration la plus favorable à la mise en glace? Alors vous avez ici en haut l'obliquité entre 22 degrés 5 et puis 24 degrés 5, on va dire, sur une période qui va de l'actuel jusqu'à 1 million d'années. Et puis vous avez l'insolation, qui est calculée à partir de ce paramètre orbital, mais également d'autres paramètres orbitaux. On l'a filtré ici cette fois-ci, c'est un document de l'INRP, tiens, j'ai oublié de le citer, c'est un document de l'INRP, et donc ça a été vraiment filtré dans la bande de fréquence de l'obliquité, donc à 40 000 ans. Vous avez l'insolation annuelle ici à l'équateur, qui varie très très peu, vous voyez, c'est moins de 1%, hein, ça varie entre 415 et 420 watts par mètre carré, et vous avez juste à côté, ici, enfin juste au-dessus, vous avez l'insolation annuelle au pôle, dans cette bande de fréquence, qui elle varie entre 160 et 180 watts par mètre carré, ce qui vous montre que l'obliquité est un paramètre qui a une influence sur les zones de haute latitude. Ça, c'est extrêmement important. Au niveau de l'équateur, effectivement, hein, si vous faites tilter la Terre, ça a très très peu d'influence, l'équateur est ici. En revanche, si vous faites tilter très très fortement, le pôle Nord, enfin l'angle solaire par rapport à la tangente à la surface de la Terre, va être beaucoup plus faible, et donc vous allez changer le bilan énergétique. Donc finalement, au cours du temps, quel a été le paramètre le plus favorable, la configuration la plus favorable à l'englacement? C'est une faible inclinaison. Faible inclinaison, pour la raison suivante, c'est que, qu'on soit finalement en période glaciaire ou en période interglaciaire, au niveau des zones de haute latitude, au niveau donc du pôle Nord, si on prend cet exemple-là, eh bien, comme je vous le disais, période glaciaire ou période interglaciaire, on stockera toujours des précipitations sous forme de neige en hiver. Donc au solstice du 21 décembre. Au solstice du 21 décembre, pardon. En revanche, si vous inclinez fortement, eh bien toute cette neige, toutes ces précipitations sous forme de neige que vous aurez stockées en hiver, elles vont fondre en été, alors que si vous inclinez faiblement, eh bien là, elles vont être préservées. Et puis ensuite, par un effet de rétroaction positive, vous allez amplifier ce phénomène. Donc voilà pourquoi, à un moment donné de son histoire, la planète a eu une histoire climatique réglée sur cette bande de fréquence obliquité à 40 000 ans. Après, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a changé à peu près vers 700 000 ans. On est passé sur une bande de fréquence plutôt de type excentricité à 100 000 ans, et pour l'instant, ce changement n'est pas expliqué. L'excentricité, donc j'y viens tout doucement, cette excentricité, donc comme je vous l'ai dit, l'obliquité, ça joue sur l'amplitude saisonnière, l'excentricité joue sur la durée des saisons, avec des variations d'insolation qui sont extrêmement faibles. L'excentricité, c'est simplement l'aplatissement de l'ellipse, hein, qui est de l'ordre de 6% au maximum, comme vous le voyez sur ce graphique, avec en fait deux cycles, hein, principaux, un cycle d'excentricité que l'on voit ici, qui est un cycle à 100 000 ans, et puis l'enveloppe du signal, qui est une excentricité à long terme, qui est une excentricité à 400 000 ans. Et là, vous voyez que, à nouveau, vous avez, alors c'est pas l'éclairement, je pense qu'il vaut mieux parler d'insolation, parce que l'éclairement, c'est un paramètre qui est fonction de la nébulosité. Vous voyez que les écarts sont extrêmement faibles. Donc, on n'explique pas des cycles d'excentricité simplement par des variations d'insolation, mais par la durée des saisons. Si on reprend ce document, vous voyez que la configuration actuelle fait que alors je me trompe toujours, voilà, l'automne et l'hiver ici sont des saisons qui sont courtes, 89 jours et 89 jours, et vous voyez que le printemps et l'été sont des saisons plus longues. Si vous avez une excentricité qui est très très faible, eh bien forcément vous allez rallonger les durées d'hiver et d'automne vis-à-vis des durées de printemps et d'été. Donc voilà comment on explique, les cycles à long terme du quaternaire, en tout cas ce que l'on appelait il y a encore quelques décennies ou même encore quelques années, et on le voit encore dans les bouquins, les vieilles glaciations, Würm, Ries, Mundell, Bieber et Danao, quelque chose comme ça, qui sont en fait de vieux enregistrements faits à partir d'alluvions glaciaires du Danube. Et tout ça est relativement obsolète, parce que ça a été une reconstitution faite à une échelle très très régionale. Et on se rend compte que ces glaciations, en tout cas celles que je vous montre, elles, ce sont des glaciations globales, qui entraînent des modifications de la chimie de l'atmosphère, des modifications de la chimie de l'océan. Et on retrouve ces cycles à 100 000 ans. Je reviens très rapidement dessus, hein. Vous avez ici, là c'est la série de Vostok, donc 400 000 ans, les travaux du laboratoire de glaciologie à Grenoble, les miens ici, donc la glaciation, si on reprend cette vieille classification une dernière fois, la glaciation du Würm qui est quelque part par ici, la glaciation du Ries qui est quelque part par ici, et puis après je me refuse vraiment à faire l'analogie avec cette classification obsolète. Dernier paramètre, la précession climatique, c'est la configuration, en fait, c'est la combinaison de deux paramètres orbitaux que vous voyez ici, qui font que ça a énormément d'influence, notamment sur la déglaciation. Je vais vous expliquer l'influence qu'a pu avoir ce paramètre de précession sur la déglaciation. Voici la déglaciation, voici l'Europe. Au moment du Würm, il y a 20 000 ans, et en à peu près 10 000 ans, toute cette calotte fédo-scandinave a disparu. Ce qui fait que ça a été un phénomène extrêmement rapide à l'échelle des temps géologiques, c'est quasiment instantané. Pourquoi est-ce qu'il y en a une déglaciation extrêmement rapide. Eh bien, c'est lié simplement à un paramètre qui est la précession. On reprend la configuration que j'évoquais tout à l'heure. Vous reconnaissez donc la trajectoire de la Terre autour du Soleil, avec ici le pôle Nord qui pointe en direction du Soleil, c'est le solstice d'été. Ici, le solstice d'hiver. Voici la configuration de la Terre et du Soleil il y a 11 000 ans, parce que ce paramètre de précession, c'est un paramètre qui a une périodicité de 20 000 ans, qui fait que l'axe de rotation de la Terre, si le Soleil est là, hein, si le Soleil est comme ça, l'axe de rotation de la Terre n'a pas, au moment du solstice d'hiver, nous concernant, toujours pointé en direction du Soleil. Simplement parce que il y a ce mouvement, c'est celui que je montrais sur la figure précédente, et en plus, tout ceci se déplace au cours du temps. Donc on se retrouve, il y a 11 000 ans, 10 000 ans après la glaciation, dans une configuration où vous voyez, le pôle Nord pointe en direction du Soleil au moment où la Terre passe au plus près du Soleil. Donc si on reprend le bilan radiatif que je vous montrais tout à l'heure, mais voilà comment on explique la déglaciation extrêmement rapide et l'apparition d'un optimum climatique il y a à peu près une dizaine de milliers d'années. Donc voilà résumé ce que je viens de vous raconter. On va maintenant parler des surprises climatiques. Donc maintenant, on a passé le cap de la théorie astronomique du climat, et maintenant on va passer sur une bande de fréquences, sur des changements climatiques à plus court terme, des changements relativement rapides, et on va parler de la période la plus récente, ici 0,60 000, et on arrivera sur l'actuel petit à petit. Avec la structure du climat glaciaire-interglaciaire, tel que je vous l'ai montré tout à l'heure, mais avec un zoom. Ce zoom, il est fait à partir d'une archive au Groenland. Vous retrouvez la période glaciaire, qui est ici. Hein. Le dernier maximum glaciaire est ici à 20 000 ans. 60 000 ans, donc là, on est toujours dans une période glaciaire. Et puis, comme je vous le disais, la déglaciation, elle est extrêmement rapide. Elle est ponctuée par un événement froid, le Dryas. Et puis ensuite, on a quelque chose de remarquablement stable, on verra que c'est pas si stable que ça, qui correspond à notre période actuelle, à savoir l'Holocène. Ce que je vous montrerai à travers cet exemple, c'est le principe des surprises climatiques, qui n'est pas encore réellement défini pour toute la communauté scientifique, on s'est pas encore mis d'accord sur ce terme, mais je peux quand même vous parler des surprises climatiques de type, alors désolé pour ce jargon, les Dansgaard-Oeschger, qui sont ici des interstades à l'intérieur des périodes glaciaires, et je vous parlerai des événements de Heinrich qui, eux, ont une autre signification. Très rapidement, pour les Dansgaard-Oeschger, pourquoi est-ce qu'on en parle autant en ce moment? Tout simplement parce que vous voyez que ce sont des coups de chaud très très rapides à l'intérieur d'une période glaciaire. Alors si... faut vous en convaincre, hein. Alors que la période glaciaire, globalement, la moyenne est quelque part par ici, hein, c'est un signal isotopique, hein, donc on va dire une paléotempérature ou une paléo-configuration de cryosphère. Vous voyez qu'en quelques décennies, le climat se réchauffe très très rapidement, et ensuite on a toujours le même motif, on a un refroidissement qui est lent et graduel, et on a à nouveau un réchauffement très très rapide, etc., etc. Donc on a toujours ce même motif qu'on appelle le motif en dents de scie. Et si on s'y intéresse de manière aussi précise, c'est simplement en tant qu'analogue de ce qui se passe actuellement, avec une vitesse de réchauffement. Pour vous dire, hein, la dernière période glaciaire ici, la température moyenne à l'échelle du globe était 4 à 5 degrés inférieure à celle que l'on a actuellement. Donc entre ça et ça, on a 4 à 5 degrés. Donc vous voyez qu'en quelques décennies, ici, la température, elle a augmenté de 3 voire 4 degrés. On n'est plus du tout dans la théorie astronomique des climats, puisque ces cycles sont des cycles millénaires, voire des cycles séculaires, donc très très rapprochés, hein. On en compte à peu près une trentaine au cours de la dernière période glaciaire. Et pour l'instant, on ne connaît pas véritablement le forçage. C'est probablement des blocages que je redéfinirai tout à l'heure, de blocage thermohalin, c'est-à-dire des modifications de la circulation océanique, mais pour l'instant, il n'y a pas de réel consensus là-dessus. Là où il y a un vrai consensus, c'est sur ces événements, qui sont ici, alors je vais les reprendre. Ah oui, alors, excusez-moi, je voulais vous montrer quand même que c'est Ansgar-Döschger, c'est donc ces petites surprises climatiques, ces coups de chaud très très rapides, c'est pas uniquement présent dans les archives de l'hémisphère nord. Vous avez ici, à nouveau, la courbe que je vous ai montrée, l'hémisphère nord, hein, entre 0 et moins 60 000 ans, vous basculez simplement, et on retrouve ici ces petites surprises climatiques, ces petits coups de chaud, on le retrouve dans le signal océanique aussi, et on le retrouve à nouveau dans un autre type de signal océanique. Ici, on est au large de la Californie, un forage que l'on a fait, où on a, dans le sédiment, un changement complet de la biodiversité, et une anoxie qui montre qu'il y a des réorganisations océaniques extrêmement importantes. Donc, deuxième type de surprise climatique, après on en abordera d'autres, les événements de Heinrich, qui eux, sont des événements définitivement froid à l'intérieur de la période glaciaire. Froid, on le sait pour deux raisons. Ici, des pollens de pin, qui vous montrent leur abondance ici. Hein. Donc on a ces 5 à 6 événements de Heinrich. Et puis également, on a ici, dans un enregistrement de l'Atlantique Nord, des ice rafting, ou plutôt des ice rafted débris, c'est-à-dire en fait des petits cailloux. Alors je pense que j'ai mis une image là-dessus. Voilà. Vous avez en fait, au fond de l'Atlantique Nord, par 2 à 3 000 mètres de fond, actuellement se dépose une boue carbonatée, riche en foraminifères, riche en coccolithophoridés, avec un peu de diatomée, un peu de radiolaire. Bref, une phase biogène extrêmement importante qui matérialise toutes ces boues globigérines du fond des océans actuels. Ce qui se passe, c'est que à chaque événement de Heinrich, dans les carottes océaniques de l'Atlantique Nord, on retrouve des grains de sable, de silt, dont on connaît bien la composition. Il s'agit principalement d'une source qui vient de ce secteur, un petit peu du Groenland, et dans une moindre mesure de la phénoscandie. On y trouve également des foraminifères bien caractéristiques. Vous savez que les foraminifères ont un enroulement qui est généralement dextre, et il se trouve que là, cette même espèce, à l'intérieur de ces événements, eh bien, à un enroulement sénestre. Et donc, tout ceci qualifie des changements très très importants à l'échelle de l'Atlantique Nord. Et l'explication, vous la trouvez sur cette reconstitution. On a en fait documenté, à travers ces 6 événements de Heinrich, des phases de vélage très très massif de la calotte, donc à l'origine de ces événements de Heinrich. Alors, on est au cœur d'une période glaciaire, donc la calotte gonfle, 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 et puis elle atteint son état limite, qui fait qu'au bout de 3000, 4000 mètres d'accumulation de la glace, eh bien à la base de cette calotte, que ce soit au Groenland ou sur le continent nord-américain ou en Phénoscandie, eh bien en base de glacier, ça fond. On a un flux de chaleur. Et là, on revient à l'histoire de géothermie, je pense que vous en avez parlé ce matin. On a un flux de chaleur qui s'accumule à la base du glacier, et tout ceci entraîne une phase de vélage, c'est-à-dire des icebergs qui vont être relâchés. Et ces icebergs, à leur base, sont très très riches en sable, en silt, et donc vont libérer une couche de ce qu'on appelle des dropstones. Et ça limite ici le front polaire, alors quelque part ici au large de Lisbonne, hein, en fait cette reconstitution, on devrait la décaler un petit peu, qui montre que, à l'occasion de ces événements de Heinrich, les icebergs venaient pratiquement jusqu'à cette latitude. Donc voilà pour l'histoire de ces deux types de surprises climatiques. On reprend maintenant le climat non plus sur 60 000 ans, non plus sur 20 000 ans, mais cette fois-ci sur une quinzaine de milliers d'années, pour vous montrer les travaux qui sont en cours actuellement sur le lac d'Annecy, où là, on fait des rapports isotopiques, non plus sur des foraminifères, ça n'existe pas dans l'eau douce, mais sur des ostracodes qui sont des crustacés qui ont une valve en carbonate de calcium, et sur lesquels on fait des rapports isotopiques. Tout ceci pour vous montrer que l'Holocène, donc l'interglaciaire auquel on appartient actuellement, paraît relativement stable, voire remarquablement stable, vis-à-vis des refroidissements qui ont précédé. Hein. Ici, vous avez le Grias récent, qui conduit à un changement de température par rapport à un petit coup de chaud qui est ici, de l'ordre de 3 à 4 degrés. Et globalement, la différence de température entre le Grias et l'Holocène est également de 3 voire 5 degrés dans la plupart des enregistrements. Je me suis trompé, excusez-moi, le Grias est ici. Ça, c'est le tardiglaciaire. Donc là, on n'est pas très très loin du dernier maximum glaciaire. Là, on est dans une oscillation chaude. Le coup de froid que je voulais évoquer, il est ici. Et maintenant, je vais vous parler d'une dernière surprise climatique qui a commencé à être documentée il y a à peu près 10-12 ans, qui est celle-ci, sur laquelle on est en train de retravailler. Pour l'instant, l'échantillonnage n'est pas assez resserré, et puis ça prend beaucoup de temps de faire du picking sur ces ostracodes et de faire des mesures isotopiques. Mais vous voyez que ici, on a une petite incursion isotopique qui a lieu il y a 8200 ans. Il y a 8200 ans, on est dans une phase où la déglaciation est quasiment terminée. Vous vous rappelez ce que je disais à propos de la modification des cycles de précession. Et donc, tout le continent nord-américain est quasiment désenglacé, mais la place laissée par les glaciers est occupée à cette époque par un très grand lac, un lac dont on estime le volume à 10 puissance 14 mètres cubes d'eau douce, qui s'est libéré de manière assez catastrophique dans l'Atlantique Nord, et donc qui a modifié ce grand courant océanique, cette grande boucle de transport de chaleur, puisque en déchargeant de l'eau douce, on a modifié la densité à travers une modification de la température, c'est une eau douce froide, hein, modification de la température en Atlantique Nord, et modification de la salinité. Donc, ce blocage thermohalin a bloqué les échanges de chaleur ici au niveau de l'Atlantique Nord et a conduit à un refroidissement climatique très très rapide, alors qu'on était dans une configuration où l'insolation était maximale. Et donc, pendant quelques siècles, on a eu un coup de froid de 3 à 4 degrés à peu près. Cette boucle thermohaline, vous en connaissez peut-être la durée. Ici, simplement pour vous montrer, à partir de datation carbone 14 sur des eaux de fond, pour vous montrer la durée de ce trajet thermohalin qui s'accomplit à peu près en 1500-2000 ans pour arriver dans le Pacifique Nord. Alors ça a été modélisé, ce coup de froid, cet événement 8002. Ça a été modélisé par des collègues mathématiciens allemands, des numériciens. Ils ont pris les valeurs de cette circulation thermohaline ou du flux de chaleur que le Gulf Stream déplace. Vous voyez que ils ont pris plusieurs valeurs. Ici, ils ont pris 20 millions de mètres cubes seconde, 40, 60, 80 et 100. Ils ont pris donc 5 configurations. Et puis, donc ils ont fait tourner leur modèle. Et puis, alors ça c'est quoi? C'est en année. Hein. Ouais, ils auraient pu le faire en seconde, mais en année ça va nettement mieux. Vous voyez que ils ont injecté dans ce modèle de l'eau douce. Et vous voyez que, quelle que soit la valeur de transport thermohalin, que ce soit 20 ou que ce soit 100, eh bien, cette injection d'eau douce, à coût de 0,75 millions de mètres cubes seconde, donc presque un Sverdrup, hein, c'est énorme, eh bien, cette injection a bloqué la circulation thermohaline. Alors, bien sûr, là, elle a été bloquée extrêmement longtemps, parce que ça a une influence sur les 20 millions de mètres cubes seconde ici. Et vous voyez que, bien sûr, plus le transport thermohalin est important, plus la durée de l'événement 8.2 est courte. A priori, l'événement 8.2 correspond à ce type d'injection. Ici, ça a duré de 2 à 3 siècles. Et une baisse de température modélisé également à l'échelle du globe une baisse de température qui est principalement effective sur l'hémisphère nord et bien sûr sur le bassin nord-atlantique, une baisse de température de l'ordre de 7 à 8 degrés au niveau du Groenland. Donc voilà pour l'événement 8002, et j'en finirai pour les surprises climatiques, on va dire, les plus emblématiques. Il se trouve que on peut quand même intégrer au titre de surprise climatique des événements plus récents sur lesquels je vais revenir maintenant. Donc la période la plus récente, avec ici des travaux faits par les Suisses, qui vous montrent les oscillations glaciaires entre il y a un peu plus de 3000 ans, et puis ici l'actuel. On reparlera tout à l'heure de ce qui se passe ici, le petit âge glaciaire. Et vous voyez qu'un certain nombre d'avancées glaciaires, notamment cette avancée glaciaire, on s'intéressait très très peu à ce phénomène il y a encore quelques années, et il se trouve que ça semble être un événement majeur de l'histoire des 10 000 dernières années, alors que je vous montrais que tout était remarquablement stable. A priori, à l'échelle de l'Europe de l'Ouest, cet événement, qui a eu lieu il y a 2700 ans, correspondrait à une crise climatique majeure, qu'on appelle la crise du bronze final, qui ici est documentée à partir de 3 enregistrements lacustres, 3 grands forages que l'on a fait, ici dans le lac d'Annecy, ici dans le lac du Bourget, ici dans le lac de la Fraye, à côté de Grenoble. Et vous avez ici une échelle d'âge qui va de moins 7000 ans jusqu'à l'actuel. Donc on a tout l'interglaciaire actuel, hein, tout l'Holocène. Et vous voyez que ces indicateurs sédimentaires montrent un changement du fonctionnement des lacs il y a à peu près 2700 ans. Alors, là où on se pose beaucoup de questions sur cet événement, c'est qu'il n'a pas une valeur globale. Dans l'Atlantique Nord, dans les enregistrements isotopiques, notamment au Groenland ou en Atlantique Nord, on ne le retrouve pas. Et pourtant, il y a des changements qui ont été, j'allais dire, assez catastrophiques pour l'homme, puisque c'est à cette époque que l'homme, alors qu'il avait construit beaucoup de cités lacustres, on est ici au bord des lacs, hein, eh bien on a eu un rehaussement très très rapide de tous ces lacs, et donc toutes les palafites ont disparu de manière assez surprenante. Alors maintenant on va parler de la période un petit peu plus récente. Cette période un peu plus récente qui intègre les 2000 dernières années, et donc ce qu'on appelle l'optimum climatique médiéval, hein, qui occupe la partie qui va de l'an 900 jusqu'en 1250 à peu près, qui a permis la colonisation du Groenland, hein, par Éric le Rouge. Et puis ici, le petit âge glaciaire, une période froide, qui a commencé, enfin on a commencé à en parler de cette période froide du petit âge glaciaire, il y a 39 ans, en 67, hein, le roi Ladurie qui avait publié un bouquin, l'histoire du climat depuis l'an 1000, il avait estimé que le petit âge glaciaire, c'était une période froide qui allait de 1250 à 1850. Je vous montrerai après que c'est bien plus complexe, tant en termes de structure que de durée. Donc là, on a plusieurs enregistrements, c'est des cernes d'arbres, des coraux, des archives glaciaires. Il y a bien sûr de la température mesurée par thermomètre pour la période récente. Et donc on a ce motif que vous connaissez probablement, qui vous montre que on a, même si on a une baisse ici, puis une baisse de température pour les 2000 dernières années, on a quand même ce motif qu'on appelle en crosse de hockey, et qui vous montre la température actuelle. Alors pour la période récente, on dispose de bien d'autres archives, et c'est là où finalement on travaille plus avec les sciences humaines et sociales, avec les historiens qui nous apportent énormément de renseignements sur l'histoire du climat pour la période récente. Avec ici les très riches heures du duc de Berry, et puis ici un dessin de Bruegel au milieu du XVIIe siècle, qui dessinait la Belgique comme ça. Hop, ah, voilà, d'autres témoignages. La mer de glace, si vous y êtes déjà allé, le Montanvert est juste derrière, là, hein, le train du Montanvert. La mer de glace a régressé en 160 ans d'à peu près 3 km. Ici, le glacier des Bessons. Voilà, tout ceci pour vous montrer finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas étendre le terme de surprise climatique à d'autres périodes plus récentes que le Ansgar-Döskeur, le 8.2, le Dryas. Et finalement, est-ce que le petit âge d'acier serait pas une surprise climatique et ce que l'on vit actuellement ne serait pas également une surprise climatique? Le glacier des Bessons, photographié en 1920 par Valo, hein, vous voyez ici position du glacier. Je l'ai photographié il y a à peu près un an. Donc voilà pour vous montrer des systèmes naturels qui répondent très très vite, parce que l'avantage du glacier, c'est que son bilan de masse répond à 95% à la température. Et donc voici ces glaciers du massif de Mont Blanc, instrumentés par l'Observatoire des glaciers alpins à Grenoble, où vous voyez le recul de la langue glaciaire, avec la dernière avancée qui date de 1984-86 à l'échelle de tout le massif du Mont Blanc. Alors, on va reparler de forçage. On a bien expliqué le principe de la théorie astronomique du climat. Maintenant, comment expliquer le coup de froid du petit âge glaciaire? Alors, ça a beaucoup discuté pendant une trentaine d'années, entre des forçages atmosphériques, forçages océaniques, forçages solaires, forçages volcaniques. Maintenant, il y a à peu près un consensus autour de tout ça. C'est principalement du forçage solaire, ponctué par des épisodes volcaniques qui entraînent des coups de froid assez rapides. Alors, les cycles solaires, voilà le cycle solaire principal, ce qu'on appelle le diagramme papillon, le diagramme de Maunder, qui vous montre ici sur une échelle de temps allant de 1910 à 1980 à peu près. Ça, c'est l'équateur solaire, hein, c'est pas notre équateur à nous, on est à moins 50 degrés sud, moins 50 degrés nord. Et donc vous voyez que le motif général, c'est des taches solaires qui apparaissent au maximum à 30 degrés nord, 30 degrés sud, 30 degrés nord, qui migrent petit à petit, etc., etc., et qui vous font cette forme en papillon. Sachant que ces taches solaires, ce sont des entonnoirs froids, de basse température. On est à 5400 K, hein, donc plus bas que la température du Soleil. Mais ça signe, et c'est là que c'est curieux, c'est que plus il y a de taches solaires, donc plus il y a d'entonnoirs froids, plus l'activité solaire est importante, plus il y a de watts par mètre carré nous concernant. Donc voilà le diagramme papillon. Maintenant, si on reprend l'activité solaire à l'échelle des quatre derniers siècles, l'actuel est ici, on retrouve, ce sont les nombres de taches solaires, hein, on retrouve ce cycle à 11 ans, on a un cycle à 50 ans, et puis on a des phases de minima solaires qui sont extrêmement bien connues. Ici la phase de minima solaire qu'on appelle de Dalton, et ici le minimum de Maunder, période durant laquelle je vous ai montré ces dessins notamment de Bruegel. Donc ça, c'est vraiment l'avancée glaciaire la plus importante du petit âge glaciaire, c'est celle du minimum de Maunder et celle du minimum de Dalton, et puis ensuite les glaciers sont en décrue massive. J'ai juste eu le temps de récupérer, il y a un article qui vient de sortir qui vous montre non plus cette fois-ci le nombre de taches solaires, mais l'irradiance solaire totale depuis le XVIIe siècle, reconstituée à partir de beaucoup de paramètres, et qui vous montre ici l'évolution de la constante solaire que j'évoquais tout à l'heure. Constante solaire avec trois types d'enregistrements, mais qui vous montre à nouveau la même chose. Le minimum de Maunder, qui est ici, un minimum solaire, avancée glaciaire massive, le minimum de Dalton, et enfin la décrue glaciaire, qui vous montre que la sortie du petit âge glaciaire, et ça c'est important, cette sortie du petit âge glaciaire qui intervient entre 1850 et 1880, est une sortie complètement naturelle. On pensait il y a encore 10-15 ans que 1850 correspondait, alors effectivement c'est le début de la révolution industrielle, on place même ça à 1750, donc on se disait quand on regarde les rejets de gaz à effet de serre, la combustion de ressources fossiles, ça commence à cette période-là, donc très bien, la décrue glaciaire, elle est liée à ça, non, la décrue glaciaire est un phénomène, à cette époque, entièrement naturel. C'est une sortie, j'insiste là-dessus, hein, c'est une sortie vraiment naturelle, et les glaciologues ont publié des travaux extrêmement récents qui montrent que Ça correspond aussi à une baisse des précipitations de l'ordre de 25% sur le début du XXe siècle. Alors, il ne faut pas oublier quand même le volcanisme dans tout ça. Le volcanisme, c'est un paramètre, mais c'est un paramètre, c'est un mécanisme forçant qui joue sur une courte durée. Vous avez ici deux séries climatiques, une série climatique, température de l'hémisphère nord, qui a été filtrée, on a enlevé la tendance à long terme liée au forçage solaire, et vous avez ici les éruptions volcaniques, j'en ai mis trois principales ici, la plus récente, celle du Tambora, en 1815, hein, 1815 ici, fait qu'en 1816, dans la région bourguignonne, il neigeait en plein mois de juillet. Vous avez ici en 1453, donc vous voyez à chaque fois, ça entraîne un petit coup de froid ici à l'échelle de l'hémisphère nord, de l'ordre d'une dizaine d'années. Ici, un stratovolcan des Tonga Kermadec, Kauai en 1453. Et puis ici, un épisode bien plus important, El Gijón en 1259. N'est-ce pas, Aude? Il se trouve que votre collègue, qui était à la prépa à Greg, avait fait une leçon sur les changements climatiques et on avait évoqué cet événement. Voilà donc toutes ces éruptions volcaniques listées très rapidement. Et maintenant, on va partir sur la période la plus récente, avec non plus des archives naturelles, non plus des archives historiques, mais maintenant, on est sur la période instrumentale. On a des thermomètres qui font la mesure des températures, des choses qui sont bien calibrées. Ça, c'est des données qui sont en libre service. C'est les Anglais qui fournissent ça, qui font donc la synthèse de toutes les températures à l'échelle de la planète, et qui vous montrent que s'il y a vraiment une transition dans l'histoire du climat, et si on vit un sans précédent actuellement, ce sans précédent, il a démarré dans les années 80. Avec, pour la dernière décennie, les 8 années les plus chaudes depuis qu'on instrumente la température à la surface du globe. Alors tout ceci est corrigé d'un certain nombre de paramètres, même si la base de données n'est pas complète. On a très peu de données, bien sûr, sur les zones les moins peuplées. On n'a pas de données sur l'océan. Mais ça reste quand même extrêmement bien contré. Et encore une fois, ça vous montre que les années les plus chaudes sont les années les plus récentes, avec une transition vers les années 80, le petit coup de chaud des années 40, et donc 98 qui était l'année la plus chaude à l'échelle du globe, et 2005 qui est la deuxième année la plus chaude. Ceci, on peut le voir dans sa variabilité spatiale. Vous avez les années qui défilent en haut à gauche, hein. Le coup de chaud des années 40, voilà. Vous voyez qu'il manque quand même des données. Et là, le coup de chaud qui démarre dans les années 80 et la situation actuelle, avec un hémisphère nord qui se réchauffe plus vite que le reste de la planète, les océans qui changent peu en température, alors c'est des volants thermiques extrêmement importants, mais en même temps on a très très peu de données sur les domaines océaniques. Pourquoi l'hémisphère nord se réchauffe plus vite? Tout simplement parce qu'il y a plus de masse continentale. Plus vous réchauffez en hiver, plus la couverture neigeuse est faible, et plus vous modifiez l'albédo, donc vous avez une rétroaction négative. Alors bien sûr, il y a aucune controverse sur l'origine de ce changement climatique. Les responsables, ce sont les gaz à effet de serre. S'il faut vous en convaincre à nouveau, contrairement à ce que certains ont pu raconter, mais maintenant on n'en parle plus trop, les cycles solaires n'ont rien à voir avec le réchauffement depuis 1980. Vous retrouvez ici une donnée qui vient d'être publiée avec ce cycle solaire à 11 ans et quelque chose de relativement stationnaire. Je vais vous montrer maintenant, il me reste, ça tombe bien, il me reste 5 minutes, je vais vous montrer maintenant que les systèmes naturels sont extrêmement sensibles à ce changement climatique très rapide et sans précédent dans l'histoire de la planète. Ça, c'est important. Vous avez ici les données du Centre d'études de la neige. C'est la station qui est au col de Porte, en Chartreuse, qui vous montre l'évolution du manteau neigeux. On a perdu à peu près 30% du manteau neigeux à 1500 mètres d'altitude en 50 ans d'enregistrement. Les dates de vendange des documents de l'INRA à Avignon qui font que à peu près en 50 ans, les dates de vendange ont été avancées d'une trentaine de jours. C'est pareil pour toute la phénologie. Là, j'ai pris la phénologie de la vigne. On pourrait prendre celle des poiriers, des pommiers, ce que vous voulez. La glace de mer arctique, on a, depuis que c'est instrumenté, depuis 25 ans, perdu près d'un million de mètres cubes, un million, pardon, de kilomètres carrés de glace de mer arctique. Donc voilà cette représentation hein, qui vous montre la variabilité interannuelle de cette banquise, de cette glace de mer, avec en jaune la configuration en 78. Donc on voit très bien cette variabilité interannuelle. Le Groenland bouge pas trop, encore qu'il y a des données qui sortent actuellement là-dessus. Et voilà la configuration en 2005. Le niveau de mer, mesuré par deux satellites, Topex Poséidon, qui s'est arrêté en 2003, et Jason. Non, tiens. Bref, il vient de s'arrêter. Et Jason qui reprend le relais. L'intérêt avec Jason, c'est qu'il peut travailler sur des plus hautes latitudes. On avait très peu de données sur les zones de haute latitude. Vous avez de la variabilité interannuelle, mais globalement, le niveau des mers augmente de 2,8 mm par an actuellement, avec de la variabilité spatiale. Le niveau des mers est plus dilaté à certains endroits qu'à d'autres endroits. Et puis les extrêmes climatiques sur l'Atlantique Nord, il n'y a pas véritablement de tendance, ça c'est une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que pour l'instant, alors c'est très très difficile hein, en termes de statistiques, de documenter précisément ces extrêmes climatiques, parce que justement, quelle est la valeur d'un extrême climatique en termes de statistiques, il n'y a pas de tendance, ce que l'on sait simplement, c'est que il y a une amplification de ces extrêmes climatiques, en durée et en intensité. C'est le seul paramètre qui bouge, que ce soit pour des cyclones sur l'Atlantique Nord, que ce soit pour des périodes de sécheresse, etc., etc. Il me reste 3-4 diapos. La température en France observée et simulée depuis le début du XXe siècle jusqu'en 2100, qui vous montre que l'évolution de température, elle n'est pas si graduelle que ça. 2003 est ici, et donc dans une cinquantaine d'années, 2003 sera un été parmi tant d'autres. Hein. Et demain, donc ça, ce sont des courbes que vous connaissez probablement, l'évolution de la quantité de gaz carbonique et de la température. Le nouveau rapport va bientôt sortir, mais je pense que vous aurez des conférences où vous les avez eues, hein, peut-être déjà. Le nouveau rapport va sortir d'ici à peu près un an. Et en fait, on s'accorde tous à dire maintenant que le réchauffement d'ici un siècle ne sera pas compris entre 1,5 degré et 5,5 degrés, mais plutôt entre 3,5 degrés et 8,5 degrés. Sauf que à l'intérieur de tout ça, il y a de l'incertitude. Cette incertitude, on en discute de manière assez récurrente, hein. Elle est liée non pas à un manque de connaissances sur la physique de l'atmosphère, sur le comportement des gaz carboniques dans l'atmosphère, tout ça on connaît relativement bien. Ce qu'on connaît moins bien, c'est simplement quelles orientations vont prendre les pays émergents et bien sûr les indices de croissance de tous ces pays. Et bien sûr le paramètre sous-jacent à tout ça, c'est les croissances démographiques de ces pays. Voilà donc la température modélisée à l'échelle du siècle à venir, une comparaison entre les 30 années du dernier siècle et les 30 années de la fin de ce siècle. À nouveau, l'hémisphère nord se réchauffe plus vite, hein, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Sur l'Europe, pareil, une comparaison sur trois décennies, 60-90 et 2070-2100, c'est le nombre de jours où la température sera supérieure à 30 degrés, c'est un document qui parle de lui-même. Probable température, donc là on cible sur la France, c'est difficile à obtenir hein, des données de Météo France, hein. Ils ont vraiment du mal à mutualiser tout ça. Je les ai récupérés, donc voilà ici les probabilités entre deux périodes bien caractéristiques. La France des températures d'été et d'hiver. Vous voyez la différence, ça parle de soi. Et puis je voulais finir simplement là-dessus, sur une controverse. Bon, tout le monde en a parlé. Alors, moi, j'étais vraiment persuadé que c'était resté franco-français, quand même, cette controverse avec ce qu'a raconté Claude Allègre. Il se trouve que non, c'est pas du tout franco-français. Ça a traversé l'Atlantique. Il y a un site qui s'appelle...